Le thème de ce petit mot, de cette causerie, ce sont les lumières de l'Apocalypse. L'Apocalypse est pleine de lumière. Dans les temps passés, les temps de trouble, les pères de l'Église avaient l'habitude de commenter à leurs fidèles quelques grands livres de la Sainte Écriture. Ils pensaient que c'était le meilleur moyen pour éviter l'angoisse, la panique, pour ne pas céder à des émotions trop humaines. Ça a été le cas notamment de saint Augustin en 410, quand Rome a été mise à sac par les Visigoths. Alors saint Augustin a commenté le psaume 118. Le psaume 118, c'est le plus long du psautier. Et grâce à ça, il élevait les esprits au-dessus de considérations purement terre-à-terre, pour éviter justement de céder à une espèce de panique ou d'inquiétude qui serait trop humaine. Alors aujourd'hui, il faut faire de même. Plutôt que de se ruer sur Internet pour essayer de prendre des nouvelles du monde, qui généralement ne sont pas bonnes, il est bon d'élever nos âmes, et dans ce temps troublé, on est dans un temps très troublé aujourd'hui, c'est clair, eh bien, il est bon de méditer l'Apocalypse. L'Apocalypse, vous le savez, c'est le dernier livre de la Sainte Écriture. C'est un livre un peu mystérieux, difficile, mais en même temps, c'est un livre qui est plein de lumière. D'ailleurs, le mot lui-même le dit. Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe ou des choses vraiment terribles. C'est le sens que la plupart des gens croient devoir donner à ce mot. Mais Apocalypse, ça veut dire simplement dévoilement, révélation. L'Apocalypse, c'est la grande révélation de Dieu sur le mystère de l'histoire, ce que l'Église devra vivre tout au cours de son histoire, depuis le moment de l'Ascension, quand notre Seigneur quitte ce monde, tout en restant présent dans la Sainte Eucharistie et par sa grâce, par son Église, jusqu'au moment de la parousie. La parousie, c'est le grand retour qui est promis que notre Seigneur opérera quand il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et cette parousie sera précédée d'événements qui, effectivement, seront des événements terribles, la grande apostasie et puis le temps de l'antéchrist. Mais il ne faut surtout pas limiter l'Apocalypse à des considérations sur ces derniers jours du monde. L'Apocalypse nous donne des clés pour toute l'histoire de l'Église et pour toutes les luttes que l'Église doit mener tout au cours des siècles. Donc ça nous intéresse au premier chef. Voilà. Donc le bon Dieu a voulu lever un coin du voile, vous voyez, sur les grands combats que l'Église mène contre Satan et contre ses suppôts, contre le monde. Et dans ce texte, le Saint-Esprit nous éclaire quant à la conduite à tenir dans ces combats. Comment s'y prendre? Quelles armes employer? Quelle espérance conserver? Comment réagir? Quelles sont les considérations importantes qu'il faut faire? Vous voyez, c'est une vision chrétienne de l'histoire. L'Apocalypse nous montre le sens de l'histoire, le vrai sens de l'histoire, le sens que la théologie nous donne, non pas le sens de l'histoire tel que l'entendent les marxistes ou les hegeliens, pas du tout. Il s'agit là d'une théologie de l'histoire. Alors, il y a des difficultés, évidemment. D'abord parce que l'Apocalypse est un livre difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert ce texte, cherché à le lire, le style est heurté. Il y a une foison d'images, plus mystérieuses les unes que les autres, qui nous déconcertent. Parce qu'il est difficile de parler des choses surnaturelles avec des mots adéquats, alors l'auteur de l'Apocalypse, saint Jean, utilise beaucoup d'images, de visions qu'il a eues. Mais ces visions nous rapportent des grandes vérités sous forme d'images. Donc le sens de ces visions est difficile à comprendre, à saisir. Et puis dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles, il y a des nombres symboliques. Alors si on les prend au pied de la lettre, on s'égare. Il y a des couleurs symboliques, il y a des personnages symboliques. Beaucoup des grands personnages de l'Apocalypse sont décrits ou montrés au travers de métaphores. Notre Seigneur, par exemple, est présenté comme un agneau égorgé ou comme égorgé, car il est vivant. C'est un peu déconcertant. En même temps, notre Seigneur est aussi présenté comme un cavalier qui chevauche un cheval blanc pour montrer toute l'évangélisation que l'Église opère au cours des siècles, hein, cette conquête du monde que le Christ opère par ses missionnaires. Et puis l'Apocalypse, c'est un plan qui est déconcertant. On s'attendrait à un plan linéaire, chronologique. Les événements de l'histoire vont nous être racontés les uns derrière les autres. Et puis, grâce à cette lecture, on pourra interpréter facilement, comprendre de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des cycles. Et ces cycles reviennent. Les mêmes réalités sont vues plusieurs fois dans des cycles différents, des septénaires, des cycles qui comportent sept phases, sept étapes en quelque sorte. Mais ces sept étapes ne prétendent pas raconter sept événements différents, et chacun des cycles ne prétend pas parler d'autre chose que les choses qui ont déjà été évoquées dans le cycle précédent. Simplement, on voit les choses sous un aspect différent, ou avec un horizon plus large. Je prends une image pour me faire comprendre. Vous êtes déjà allé au bord de la mer, au bord de l'océan, là où il y a des vagues. À marée montante, eh bien, on voit les vagues qui viennent éclater les unes derrière les autres, apparemment au même endroit. Et pourtant, puisque la marée est montante, chaque vague éclate un petit peu plus loin que la précédente. Et donc, il y a une progression. Mais cette progression n'apparaît pas tout de suite. On a vraiment l'impression que les vagues éclatent toutes au même endroit. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe, vous voyez. Les mêmes événements sont vus dans des visions différentes. Mais il y a un petit plus à chaque fois. Il y a un aspect nouveau, il y a une vérité nouvelle qu'il faut découvrir. Donc c'est une progression par à-coup. C'est un mode d'explication, d'interprétation qui est très contemplative d'ailleurs. Vous voyez, on prend son temps. On ne cherche pas à connaître des tas de choses nouvelles de manière boulimique. Saint Jean n'a pas du tout procédé de cette manière-là. Donc tout ça pour dire que c'est un peu déconcertant. C'est un livre qui est même un peu décourageant, mais en même temps qui est fascinant. D'ailleurs, on le voit bien, quand le monde parle d'apocalypse, dans des films, dans des livres, dans des bandes dessinées ou dans des choses comme ça, c'est toujours comme si on s'attendait à des catastrophes toutes plus grandes les unes que les autres, des cataclysmes dans lesquels les hommes vont tous être massacrés avec beaucoup d'hémoglobine. Enfin, c'est ça l'idée qu'on se fait de l'Apocalypse. C'est tout à fait faux. Mais ça montre qu'il y a une certaine fascination. Et puis, autre chose aussi qui peut être un peu inquiétant, c'est que l'Apocalypse de tous les livres de la Bible est celui qui a été le plus souvent récupéré par les sectes. Parce que comme c'est un livre mystérieux, de ce fait-là, c'est facile de lui donner un sens qui n'est pas du tout son sens réel. C'est pour ça que c'est un livre qu'il faut absolument interpréter avec les lumières de l'Église. Il ne faut surtout pas se lancer dans une interprétation individuelle. Nous ne sommes pas des protestants. Nous ne pratiquons pas le libre examen. Vous voyez, ce livre excite un peu la curiosité malsaine. Beaucoup de gens croient trouver dans l'Apocalypse la date de la fin du monde. C'est un livre crypté. Alors c'est intéressant ça. Ça suscite un petit peu la curiosité. Mais c'est une curiosité qui est malsaine. Et dans les époques troublées, il y a eu une multiplication de commentaires de l'Apocalypse qui souvent sont de très très mauvaises factures et dans lesquels on cherche à un concordisme, une forme de concordisme, c'est-à-dire on va vouloir décrypter les événements présents à la lumière du texte de l'Apocalypse. Alors on vous dira, les bêtes de l'Apocalypse, c'est tel personnage, c'est Luther, ou c'est Néron, ou c'est Monsieur Macron, ou c'est je ne sais qui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours faux. Il peut y avoir un fond de vrai. Beaucoup des grands ennemis de l'Église et du Christ ont eu des préfigurations. L'Antéchrist, qui viendra à la fin des temps, à la fin du monde, au dernier jour du monde, a eu des préfigurations tout au cours de l'histoire. Donc on peut très bien reconnaître dans certains personnages quelque chose de ce qui nous est décrit dans l'Apocalypse. Mais vous voyez, ça serait réducteur de vouloir expliquer tout le texte comme ça. Et c'est vain. Et c'est même, d'une certaine manière, désinvolte envers la parole de Dieu. Il y a beaucoup mieux à tirer pour nos âmes que ce petit jeu de concordance. Même si, encore une fois, il existe des concordances entre les troubles qu'on connaît notamment aujourd'hui, entre toutes ces difficultés que le monde connaît, et puis le texte de l'Apocalypse. Mais voyez, il ne faut surtout pas réduire le texte à une interprétation de quelques événements contemporains. Ce serait tout à fait réducteur, encore une fois. Alors, comment faire? Il faut des clés. Et le but de cette petite causerie, c'est un peu de vous donner quelques clés. Alors, je passe sur l'authenticité du livre. La tradition a toujours dit que ce livre a été écrit par Saint Jean l'évangéliste. Jusqu'au IVe siècle, ça n'a fait aucun doute. C'est tout le monde unanimement affirmait cela. On s'est mis à douter un petit peu ensuite. On a cessé de voir dans Saint Jean l'auteur de l'Apocalypse, au moins en certains lieux ou chez certains auteurs, même ecclésiastiques, pour une raison toute simple en fait. C'est qu'une mauvaise interprétation de l'Apocalypse, j'y reviendrai un petit peu plus loin, a donné lieu à ce qu'on a appelé le millénarisme, qui est une erreur, le millénarisme. Alors à cause de ça, l'Apocalypse a été dévalorisée. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible que Saint Jean l'évangéliste ait écrit quelque chose dans lequel il y a des erreurs. Donc on a voulu trouver d'autres auteurs. Et on a attribué l'Apocalypse à d'autres personnes. Bon, je laisse tout ça de côté. Ce sont des considérations un peu techniques, un peu exégétiques, qui ne nous intéressent pas ici. La première clé, c'est de bien comprendre quel est l'objet de l'Apocalypse. Comme je vous l'ai dit, l'Apocalypse rapporte les luttes de l'Église au cours de l'histoire. Mais ces luttes sont vues avec le regard de Dieu, sub specie eternitatis, c'est-à-dire avec un point de vue qui est le point de vue de l'éternité, un point de vue surnaturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout s'attendre, en lisant l'Apocalypse, à trouver une description des événements comme vous le trouvez dans votre journal du matin. Ce n'est pas du tout la même chose. Quel est le fil rouge, en quelque sorte? C'est le combat des deux cités. L'histoire humaine, depuis notre Seigneur, et même avant, mais spécialement depuis notre Seigneur, est traversée par un combat gigantesque entre les deux cités. Vous connaissez ce texte de saint Augustin, hein, les deux cités, c'est un grand ouvrage que saint Augustin a écrit, après le sac de Rome, justement, à la demande d'un de ses amis qui était gouverneur d'Afrique, qui s'appelait Marcellin, et qui était désolé, c'était un chrétien, il était désolé de voir les attaques des païens, parce que les païens prétendaient que l'Empire romain était en train de s'écrouler à cause du christianisme, parce que l'Empire avait changé ses dieux, avait abandonné sa tradition païenne, et à cause de ça, en adoptant notre Seigneur, l'Empire était en train de s'écrouler. C'était un châtiment des dieux. Alors il fallait répondre à cette calomnie, à cette objection. Et saint Augustin s'est mis au travail, et il a écrit cet énorme livre de la Cité de Dieu. Et dans ce livre, il explique, non pas au tout début, d'ailleurs c'est presque au milieu ou aux deux tiers du livre, deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du monde, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu. Ces deux cités, c'est comme l'incarnation, si vous voulez, de l'œuvre de Dieu d'un côté, de l'œuvre du diable de l'autre. Et l'homme est au milieu de ce combat. Voilà. Alors, l'Église doit donc s'opposer, tout au cours de son histoire, à Satan et à ses suppôts. Et l'Apocalypse va nous rapporter cette bataille gigantesque. Mais, et c'est ça le grand enseignement de l'Apocalypse, la victoire du Christ est certaine. Et c'est un livre qui est plein d'espérance. Il ne faut pas du tout voir dans l'Apocalypse une espèce de description plus ou moins malsaine de catastrophes terribles, un peu comme on voudrait le croire quand on a l'esprit un peu de le voyeurisme. C'est pas ça du tout. C'est un livre qui est plein d'espérance. On a la certitude de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est déjà acquise. Depuis le Vendredi Saint, la rédemption est opérée. Il reste à l'appliquer. Et tout au cours de son histoire, l'Église va devoir lutter pour que cette application se réalise dans les âmes. Mais la victoire est déjà acquise. Le diable est déjà défait. Et c'est ce que l'Apocalypse veut dire quand elle parle justement de l'enchaînement du diable, qui est enchaîné pour 1000 ans, pour montrer que depuis la victoire de la croix, le diable n'a plus du tout le pouvoir qu'il avait précédemment. Il est comme un chien attaché, comme disait saint Augustin. Alors, au terme de l'histoire, au moment de l'ultime période qui sera la période de l'Antéchrist, le diable sera en quelque sorte comme détaché par permission divine. Il y aura un paroxysme de persécution, de tribulation. Mais c'est un temps qui doit être très bref, enfin, au regard de l'histoire. Au regard de tout l'ensemble de l'histoire, c'est une persécution qui restera limitée. Le pouvoir du diable est limité, alors que le pouvoir de Dieu est infini. Mais il y aura toujours cette hostilité des ennemis de Dieu, envers l'Église. Alors tantôt une hostilité qui est sourde, tantôt qui est ouverte. Et c'est ce que l'Apocalypse a rapporté en racontant les choses de manière imagée, en parlant du dragon et des deux bêtes. Le dragon, c'est Satan, qui est ainsi désigné dans ce texte. Et donc ce combat atteindra son paroxysme au dernier jour du monde. Au dernier jour, jour du monde. Alors, deuxième petite clé, là justement, il y a une question de vocabulaire qui est importante. L'Apocalypse parle souvent des derniers temps. Et quand on entend ces mots, on a immédiatement l'idée, le sentiment qu'il s'agit des derniers jours du monde, du temps de l'Antéchrist, de la période de la grande apostasie prédite par saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens. Eh bien, pas du tout. Les derniers temps, ou les temps nouveaux, c'est une expression qu'on trouve chez saint Paul, chez saint Pierre et chez saint Jean dans l'Apocalypse, c'est une expression qui désigne tout le temps de l'Église, depuis l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour glorieux au dernier jour du monde, au moment de la parousie. C'est ça les derniers temps. Nous vivons dans les derniers temps actuellement. Donc il ne faut surtout pas limiter ces derniers temps à l'ultime période qui précédera le jugement final, le jugement général. D'ailleurs, si les derniers temps ne désignaient que cette ultime période, à quoi bon avoir écrit l'Apocalypse? À quoi bon la lire? On pourra toujours se dire, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui viendront au moment où auront lieu ces événements ultimes. Alors peut-être qu'on peut toujours croire que ces événements ont déjà lieu, qu'on y est déjà. Mais voyez, ça veut dire que les auditeurs vraiment concernés ne seraient qu'un tout petit nombre. Aucun livre de la Sainte Écriture n'est écrit pour uniquement quelques personnes. Ce sont des livres qui tous ont une valeur et une portée universelle, qui valent pour tous les temps et pour tous les chrétiens. Et c'est le cas de l'Apocalypse. Donc les derniers temps, il ne faut pas faire de contresens, les temps nouveaux, et l'autre expression qui revient aussi sous la plume des apôtres, désigne ce moment qui va de l'ascension, de la résurrection, de l'ascension, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur au dernier jour du monde. Donc si on veut vraiment parler des ultimes moments de l'histoire du monde, il faut parler des derniers jours du monde. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Petite remarque au passage, vous savez que le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. La Genèse nous raconte la création, puis le péché originel, et la promesse du Sauveur. Et puis ensuite, c'est toute la grande épopée des patriarches. Enfin, il y a d'abord les patriarches antédiluviens, le déluge, etc. Et puis depuis Abraham jusqu'au moment de l'Égypte, où les Hébreux vont en Égypte, après que Joseph ait été vendu par ses frères. La Genèse raconte donc les origines de l'humanité. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il y a un parallèle entre les deux. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que, sans avoir les clés de la Genèse, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre dans l'Apocalypse. Entre parenthèses, ça vous montre que l'Ancien Testament est un livre chrétien. Ce n'est pas un livre juif. L'Ancien Testament, il est nôtre. Il nous appartient. C'est Dieu qui en est l'auteur. L'interprétation qu'en donnent les Juifs, qui eux n'ont que l'Ancien Testament, qui n'ont pas le Nouveau Testament, est une interprétation qui forcément est faussée. Car la clé de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Et on ne peut pas comprendre la Genèse si on ne comprend pas l'Apocalypse. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas la Genèse. La Genèse, c'est la création du monde. Cette création, elle est abîmée par le péché originel. L'homme a péché et Dieu promet un sauveur. Et au terme de ce salut opéré par la rédemption, toute l'histoire de notre Seigneur, les évangiles, le terme, c'est l'Apocalypse justement, c'est la Jérusalem céleste. Depuis la création du monde jusqu'à la Jérusalem céleste, c'est la même histoire. Dieu crée, il rachète, c'est une recréation, et cette recréation magnifique, merveilleuse, quel est son terme ? C'est la Jérusalem céleste. C'est très important pour nous d'avoir une vision du but. La Jérusalem céleste, c'est ce pourquoi nous sommes faits. C'est ce vers lequel on doit tous tendre. Tous nous sommes faits pour le ciel. Et la description qui est donnée dans l'Apocalypse, c'est la dernière partie de l'Apocalypse, est extrêmement belle. Et c'est un aspect qui est complètement oublié, qu'on méconnaît totalement. On s'attarde souvent sur les visions qui rapportent justement les batailles entre l'Église et Satan, ou les divers cataclysmes par lesquels Dieu châtie l'humanité pécheresse. Mais on oublie complètement de parler de la Jérusalem céleste, qui est vraiment le but pour lequel nous sommes faits. Autre clé très importante, l'Apocalypse est une prophétie symbolique. Ce n'est pas un livre d'histoire. Si vous ouvrez un livre d'histoire, d'histoire de France, l'historien qui a écrit ce livre vous rapporte les événements les uns après les autres, en ordre chronologique, pour qu'on comprenne le fil de l'histoire. Alors, à Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, etc. Et grâce à tous ces récits, on a une vision de l'histoire qui est complète. Un prophète ne raconte pas du tout les choses de cette manière. Il ne se place pas du tout au même point de vue. Un prophète, il voit les choses que Dieu lui révèle, mais il ne les voit pas étalées dans le temps. L'historien, lui, travaille quand les événements sont passés. Donc il va chercher dans des archives, dans des documents, et puis il ressuscite en quelque sorte les événements, en les classant selon leur ordre chronologique. Alors que le prophète, il n'a pas du tout cette notion du temps. Il voit tout comme si les choses qu'il voit, les événements qu'il voit, étaient tous collés les uns contre les autres, et il les voit par transparence en quelque sorte. Comme si tous ces événements se présentaient devant lui, sans qu'il puisse dire celui qui est avant, celui qui est après, et comment ces événements s'organisent dans le temps. C'est une vision qui ne procède pas du tout de la même manière que l'exposé d'un historien. Alors ça, c'est très important à comprendre. Parce que si on n'a pas compris ça, on ne comprendra pas tout le symbolisme des nombres. Quand il est dit, par exemple, que telle persécution, telle tribulation qui nous est rapportée par l'Apocalypse doit durer deux temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois, ou 1260 jours, ce sont des chiffres symboliques. Ce n'est pas une durée précise avec un avant et un après. Ce sont des choses qui sont vues par le prophète et qui sont vues comme par transparence les unes avec les autres. Alors, le fait que ce soit une prophétie fait qu'il y aura une simultanéité des plans et il n'y aura pas de chronologie. Le mode par lequel le prophète va raconter tout ça sera un mode tout à fait particulier. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, l'auteur, Saint Jean, procède par cycles. Alors les cycles nous rapportent des événements, mais ces cycles ne les rapportent pas de manière linéaire, chronologique. Et entre ces cycles, il y a des ouvertures vers le ciel. À certains moments, ça arrive quatre fois dans le texte de l'Apocalypse, Dieu dit à Saint Jean, ou c'est l'ange qui dit à Saint Jean, un des anges envoyés par Dieu, « Monte ici ». Et Saint Jean est comme transporté en esprit au ciel. Et de là-haut, si on peut parler ainsi, il voit les événements qui se déroulent autour d'un axe. Et ces événements, il les décrit au travers de septénaires, dans des cycles septénaires, donc des cycles qui comportent sept éléments, sept visions successives. Et puis ensuite, il remonte au ciel, pour voir les choses, pour les comprendre tels que Dieu les comprend, tels que Dieu les explique. Mes explications ne sont peut-être pas très claires. Mais vous voyez, il y a comme deux plans. Il y a des réalités éternelles, qui sont des réalités que Saint Jean voit telles que Dieu les voit, qui sont éternelles. Et puis il y a les événements humains, qui correspondent au dessein de Dieu sur l'histoire, et qui sont comme la traduction humaine, et donc marquée par le temps forcément, de tous ces desseins de Dieu. Mais sans que pour autant le récit qui en est fait est un récit, soit un récit chronologique. Il y a une image qui fait comprendre ça. On a comparé Saint Jean à un aigle. Vous savez d'ailleurs, c'est l'image, les quatre évangélistes sont représentés par quatre animaux. C'est tiré d'une des visions d'Ézéchiel. C'est Saint Irénée qui a fait cette application des animaux d'Ézéchiel aux quatre évangélistes. Saint Jean, on lui attribue l'aigle. L'aigle, il fait des grands tours, il tourne très haut dans le ciel autour de sa proie, enfin autour. Il voit les choses de très très haut. Et puis quand sa proie, il l'a discernée, il fond sur sa proie, il plonge et puis il remonte. Ben, c'est exactement comme ça que Saint Jean procède. Vous voyez, il y a comme des cercles, manière de raconter les choses est très contemplative. On revient plusieurs fois sur les mêmes réalités et puis on descend à certains moments pour décrire des événements, certains châtiments que Dieu va opérer. Voilà, bon, j'insiste pas trop. Dernier petit point, toujours dans ces petites clés, les fameux 1000 ans. C'est à la fin de l'Apocalypse. Je vous dirai un tout petit mot sur le plan général du livre, si tant est qu'on puisse parler d'un plan. À la fin, Saint Jean va raconter comment Dieu châtie ses ennemis. Alors, on va avoir les châtiments d'abord de la Babylone, la grande prostituée, qui est la métaphore qui désigne la contre-église, qui désigne la cité du diable. Ensuite, on va avoir le châtiment des deux bêtes, qui sont comme les suppôts de Satan, qui sont en quelque sorte l'incarnation de l'antéchrist, mais d'un antéchrist qui n'est pas simplement l'antéchrist personnel qui doit venir au dernier jour du monde, mais de toutes les préfigurations aussi de l'antéchrist au cours de l'histoire. Donc les deux bêtes sont comme des antéchrists collectifs, en quelque sorte. Toutes les hérésies, tous les hommes politiques qui ont opéré des persécutions, qui ont accablé l'Église de tribulations, tout cela sont représentés par ces deux bêtes. Et puis le dragon, le grand dragon roux, qui est Satan lui-même, qui est le maître d'œuvre, qui en quelque sorte gouverne tout ce monde impie et tout ce monde ennemi de Dieu. Alors, tous ces protagonistes vont être châtiés les uns après les autres. Enfin, le récit décrit un châtiment successif. Ça ne veut pas dire que le châtiment en question sera successif, mais il faut bien que les choses soient prises les unes après les autres pour qu'on puisse les comprendre. Et alors, à un moment donné, quand il s'agit de Satan, Saint Jean va expliquer que Satan va être lié, attaché pour 1000 ans. Et qu'ensuite, il sera détaché, et il est détaché au moment où précisément, il y a comme les âmes des élus vont régner avec le Christ pendant ces mêmes 1000 ans. Alors, certains auteurs, notamment parmi les tout premiers commentateurs de l'Apocalypse, Papias, Victorin de Peto, et même sans doute un petit peu Saint-Irénée, encore que Saint-Irénée n'a pas vraiment fait de commentaire de l'Apocalypse, c'est plutôt quelques lignes, quelques pages au cours de son grand Adversus Hérésès, donc c'est assez limité. Donc il est difficile de dire exactement quelle était l'opinion de Saint-Irénée. Enfin, ces auteurs très anciens, pendant les trois premiers siècles de l'Église, ont cru qu'il fallait prendre ces termes à la lettre. Et ils ont imaginé que pendant 1000 ans, il y aurait un temps de paix dans lequel le Christ reviendrait régner sur terre, corporellement, avec les élus. Et donc, il y aurait ce temps merveilleux dans lequel l'Église pourrait régner dans la paix sans avoir affaire avec... sans avoir à lutter contre ses ennemis. Alors, dès le IVe siècle, saint Augustin, saint Jérôme, d'autres auteurs encore, ont expliqué que c'était un contresens, que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait comprendre les choses. Et même cette conception des choses qu'on a appelée le millénarisme a été ensuite non pas cataloguée comme une hérésie, ce n'est pas une hérésie, mais comme une erreur. Et l'Église a dit que c'était faux, qu'il ne fallait pas croire cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 1000 ans? Ben, en fait, les 1000 ans en question, c'est tout le temps de la vie de l'Église pendant lequel notre Seigneur étant ressuscité et régnant dans son Église, le diable voit son pouvoir limité. Il est comme enchaîné. C'est un enchaînement relatif, évidemment. Et les âmes des justes qui sont morts, qui, en attendant le jugement dernier, ont connu ce que l'Apocalypse appelle une première résurrection. Cette première résurrection, c'est le fait que ces âmes se savent sauvées, elles sont près de Dieu, elles jouissent déjà de la vision de Dieu. Alors, il s'agit de ces âmes au sein desquelles Dieu règne, au sein desquelles notre Seigneur règne. Donc, vous voyez, ce n'est pas un règne terrestre. En fait, c'est le règne au ciel de ces âmes justes qui vivent et qui jouissent déjà de la vision béatifique. Pour bien me faire comprendre, je vous lis un tout petit passage du cardinal Billot qui explique très bien ça. Voilà, c'est Bossuet d'abord qui dit ceci. Bossuet, donc un auteur très sérieux. Papias, très ancien auteur, dont on n'a pas de texte d'ailleurs. Tout ce qu'on connaît de Papias, c'est Eusèbe de Césarée au IVe siècle qui nous l'a rapporté. On a perdu l'œuvre de Papias. Papias, très ancien auteur, mais d'un très petit esprit, vous voyez, Bossuet est sévère, ayant pris trop grossièrement certains discours des apôtres que leurs disciples lui avaient rapportés, introduisit dans l'Église ce règne de Jésus-Christ durant 1000 ans dans une terrestre Jérusalem magnifiquement rebâtie, où la gloire de Dieu éclaterait d'une manière admirable, où Jésus-Christ régnerait visiblement avec ses martyrs ressuscités, où, à la fin, néanmoins, les saints seraient attaqués et leurs ennemis consumés par le feu du ciel, après quoi se ferait la résurrection générale et le jugement dernier. Donc, voyez, en attendant la grande apostasie et la venue de l'Antéchrist, il y aurait un règne de 1000 ans où Jésus-Christ régnerait visiblement, corporellement, au milieu des martyrs ressuscités. En fait, ce n'est pas une résurrection au sens strict du mot. C'est ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection, par opposition à la deuxième, c'est-à-dire celle du jugement général, quand nos corps ressusciteront. La première résurrection, c'est le simple fait que nos âmes, étant justes, si elles, après la mort, le purgatoire étant achevé, elles jouissent déjà de la vision béatifique. C'est déjà une forme de résurrection spirituelle. Donc il faut mettre des guillemets, si vous voulez. Voilà. Alors, en fait, c'est une idée à l'origine qui est une idée juive. Les Juifs étaient persuadés que Jérusalem serait éternelle et que donc le Messie, quand il viendrait, Messie qu'ils attendent toujours, régnerait dans la ville, la cité de Jérusalem, la cité terrestre, la cité matérielle de Jérusalem. Et cela pour un temps, alors eux estimaient que c'était beaucoup plus de 1000 ans, vous voyez, certains rabbins allaient même jusqu'à 365 000 ans. Voilà, bon, on l'attend toujours. Donc c'est une idée à l'origine, vous voyez, qui n'est pas chrétienne en fait, ça. Il faut le savoir. Et le père Calmel a fait des applications à ça qui sont très intéressantes. Il montre que, indépendamment de cette erreur millénariste telle qu'on l'a connue dans l'histoire, telle que Bossuet l'a décrit ici, ou bon, je ne vous ai pas lu le petit passage du cardinal Billot, mais qui en parle dans le même sens, il y a une forme de millénarisme aujourd'hui dans l'Église progressiste, chez les progressistes, qui consiste à vouloir un salut sans la croix. On aspire, alors c'est une forme de millénarisme entre guillemets si vous voulez, on aspire à une espèce d'âge d'or où l'homme serait devenu adulte et l'homme sera capable ainsi de dominer, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de une vision un peu béatifique, enfin pas béatifique, une vision un peu, excusez-moi, je ne trouve pas mon mot, très optimiste, enfin un peu ridicule même, d'un monde heureux, où tout sera facile, où il n'y aura pas à lutter, où il n'y aura pas de croix, où il n'y aura pas... Ce qui est une grave erreur. Le salut se fait par la croix. C'est exactement ça le message de l'Apocalypse. Il n'y a pas de possibilité d'atteindre la Jérusalem céleste sinon par l'épreuve et par la croix. Il faut passer par la tribulation. Donc, il y a une forme de millénarisme qui consisterait à vouloir que le christianisme puisse exister en s'appuyant uniquement sur la résurrection de notre Seigneur et en éliminant complètement Vendredi Saint. Alors le christianisme, ça serait une espèce d'utopie tout à fait irréaliste dans lequel il n'y aura pas de combat, pas de lutte, pas de pénitence, pas de... Vous retrouvez exactement le langage de l'Église conciliaire actuelle. On a éliminé la croix, on a éliminé le sacrifice, on a éliminé la pénitence, on a éliminé... Le christianisme devient quelque chose une espèce de New Age, plus ou moins à coloration chrétienne. Alors, enfin, pour terminer, avant de vous donner un petit peu le plan de l'Apocalypse, si je ne veux pas prolonger davantage, il faut aussi comprendre que les descriptions de personnages qui sont données dans l'Apocalypse sont... par exemple, l'Antéchrist, je vous ai dit, est représenté par les deux bêtes. Pour bien inclure, indépendamment de l'Antéchrist personnel, toutes ces préfigurations. Et quand saint Jean va parler notamment du châtiment de la grande Babylone, de la grande prostituée, qui désigne la contre-église, la cité de Satan, il va décrire cette cité, cette Babylone, sous les traits de Rome païenne, de la Rome païenne. Saint Jean écrit sous Domitien, en 95-96 après Jésus-Christ. C'est la deuxième grande persécution, Domitien. Il y a eu celle de Néron, dans laquelle les apôtres Pierre et Paul, Saint Pierre et Saint Paul sont morts, et puis celle de Domitien. Et c'est Domitien qui a exilé Saint Jean à Patmos, dans l'île où il a écrit l'Apocalypse, en 95-96. Il y a eu beaucoup de martyrs sous Domitien. Alors, la Rome païenne est une préfiguration de cette cité du diable. Et la grande prostituée est assise sur la bête de la mer. Elle a sept couronnes et sept têtes. Et sous elle reposent les sept collines. Enfin, je ne rentre pas dans le détail parce que ça serait trop compliqué. Mais tout ça est une description, en fait, de la Rome païenne et de ses premiers empereurs. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le texte de l'Apocalypse se limite à ça. Ce qui est désigné ici, et que les auteurs reconnaissent comme s'appliquant à Rome, désigne aussi toutes les autres préfigurations de l'Antéchrist qui ont pu exister au cours de l'histoire. Luther, Marx, Lénine, et j'en passe. Tous les ennemis de l'Église, tous ceux qui ont lutté contre l'Église, sont ainsi préfigurés. Mais comme tout ça est exprimé par des images, les images évoquent forcément plus ou moins certains événements ou certains personnages qui ont pu avoir une existence historique. Voilà. Alors, il y a trois grandes révélations. Il y a d'abord une vision inaugurale qui est magnifique. C'est le Christ au glaive. Et on commence par notre Seigneur. C'est le personnage principal. Le personnage principal de l'Apocalypse, ce n'est pas le diable. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est vraiment le maître de l'histoire. Alors, il y a une description qui est très, très belle. Si vous avez l'occasion, pour les gens qui habitent Angers, d'aller visiter les tentures de l'Apocalypse au château d'Angers, c'est magnifique. L'artiste qui a fait cette tenture, elle a été faite en l'espace de 7 ans environ, donc d'une manière très rapide. C'est un monument, c'est unique au monde. C'est la plus grande tapisserie d'Europe. Alors, ça représente toute l'Apocalypse, et d'une manière qui est vraiment fidèle. L'artiste a fait quelques petits arrangements, évidemment, mais dans l'ensemble, c'est très, très fidèle. Il y a quelques tableaux qui manquent, parce que cette tapisserie a connu beaucoup de vicissitudes. Enfin, il y a encore 77 tableaux sur les 84 originaux, ce qui est quand même magnifique. Alors, on voit cette première vision du Christ avec le glaive, qui domine l'Église et puis qui... Donc c'est lui vraiment le personnage principal. C'est lui qui est le maître de l'histoire. Après, vous avez les lettres aux sept églises. C'est un petit peu comme un intermède dans le texte de l'Apocalypse, mais c'est quelque chose qu'il faut lire et qu'il faut méditer. C'est l'état spirituel de l'Église. Saint Jean reçoit de Dieu l'ordre d'écrire, de s'adresser aux sept évêques des sept grandes églises d'Asie mineure. Ces sept églises représentent toute l'Église. Le chiffre 7 est un chiffre symbolique, hein, qui indique une certaine plénitude, une certaine perfection. Alors chaque Église reçoit un message particulier, soit d'encouragement, soit de critique. Alors vous connaissez certains de ces passages. On cite très souvent la lettre à l'Église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid ni chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ben, c'est Dieu qui parle. C'est des choses qui s'adressent à nous tous. Il y a là des, par exemple à l'église d'Éphèse aussi, hein, parce que tu t'es refroidi de ton premier amour. Il y a des choses qui sont très très belles. Ces chapitres 3 et 4 de l'Apocalypse sont vraiment très très beaux. Après, on rentre dans une première grande partie qui va décrire les grands combats que Dieu mène au cours de l'histoire contre le monde pervers, le monde méchant. Alors d'abord, il y a toute une grande liturgie céleste. Vous voyez, tout est vu de sub specie aeternitatis, comme je vous disais au début, depuis le ciel. Alors on contemple Dieu en majesté. Alors il n'est pas exprimé d'ailleurs en termes propres. Il est question d'un trône sur lequel quelqu'un est assis, celui qui est assis. C'est Dieu, Dieu le Père, qui est assis sur son trône et qui règne sur toute la cour céleste. Alors cette cour céleste, elle est représentée par des vieillards, 24 vieillards qui sont des rois, qui déposent leur couronne aux pieds de Dieu, et puis par quatre animaux, quatre vivants, hein, donc les fameux animaux qui sont issus d'Ézéchiel et que saint Irénée va ensuite appliquer à chacun des évangélistes, hein, qui symbolisent en fait toute la cour angélique, les ministres de Dieu qui sont chargés d'agir pour réaliser les desseins de Dieu dans l'histoire auprès des hommes. Donc toute une magnifique liturgie céleste. Et puis ensuite, vous avez deux grandes visions, deux grands cycles. Il y a d'abord un cycle préparatoire, c'est ce qu'on appelle les sept sceaux. Et puis ensuite, une vision exécutoire, c'est les sept trompettes. Mais c'est la même chose. Les sept sceaux, c'est la vision préparatoire. Les sept trompettes, c'est la réalisation de cette vision antérieure. Alors les sept sceaux, c'est parce que le livre que tient Dieu est scellé. Le cours de l'histoire est scellé. On ne peut le connaître. Les hommes ne peuvent pas le connaître. Qui va donc pouvoir ouvrir ce livre? C'est notre Seigneur, l'agneau comme égorgé. Il est le seul qui peut vraiment décrypter le fil de l'histoire et nous expliquer les desseins de Dieu sur l'histoire. Alors les sceaux s'ouvrent, et au fur et à mesure que les sceaux s'ouvrent, donc les sept sceaux, ce livre est scellé de sept sceaux, au fur et à mesure donc de l'ouverture de ces sceaux, il y a un certain nombre d'événements qui nous sont décrits. Alors encore une fois, ce ne sont pas forcément des événements qui ont une suite chronologique. Vous avez d'abord les quatre cavaliers de l'Apocalypse, tout le monde connaît ça, mais là aussi on fait très souvent un contresens énorme. Le premier des cavaliers, c'est notre Seigneur lui-même, qui monte un cheval blanc, qui est armé d'un arc. Ça symbolise l'évangélisation que l'Église opère tout au cours de son histoire. Dieu lance l'Église au travers du monde pour qu'elle évangélise toutes ses populations éloignées les unes des autres. Chacune des flèches que ce cavalier projette, hein, c'est comme autant de vérités qui vont pénétrer dans les cœurs et qui vont amener à Dieu des populations entières. Et puis derrière, les trois autres cavaliers, eux, sont des suppôts du diable, hein. Donc vous avez la famine, après vous avez la guerre, enfin d'abord la guerre, et puis la famine, et puis enfin la peste, la mort. Donc ils sont les pourvoyeurs de l'enfer. Et puis à partir du sixième sceau, vous avez déjà, qui sont donc vus avant que leur réalisation soit, la réalisation ne viendra qu'après, les châtiments des ennemis de Dieu. Alors vous avez d'abord des châtiments naturels, des cataclysmes ou des choses comme ça, qui affectent indirectement les hommes. Et puis ensuite, des châtiments qui vont directement affecter les hommes. Et au cours du sixième sceau, il y a deux visions antithétiques qui sont très très belles, toujours pour nous montrer, vous voyez, que l'Apocalypse est un livre plein d'espérance. Il ne faut pas voir simplement les ennemis de Dieu, le châtiment des ennemis de Dieu, les catastrophes qui vont tomber sur eux. Vous avez, vous connaissez bien ce texte parce qu'il fait partie de la liturgie de la Toussaint, tout ce cortège des élus, cet immense cortège des élus, et au préalable, il était déjà question des saints qui sont sous l'autel de Dieu et qui réclament justice. Ils ont les martyrs qui sont morts et qui ont subi persécution et qui prient pour que la justice de Dieu s'exécute, se réalise, et que le monde soit jugé selon ses œuvres. Et cela provoque une terreur chez les réprouvés, une terreur terrible, avec un ange qui vient estampiller le front de chacun des élus. C'est l'image du caractère du baptême. Les baptisés sont marqués d'un caractère pour bien montrer qu'ils sont enfants de Dieu. Et puis cet immense cortège des élus. Alors tout ça, c'est des grandes visions prémonitoires, en quelque sorte, qui sont des visions de préparation. Et puis ensuite, vous avez les sept trompettes. Alors les trompettes dans la Bible, vous savez, le symbole des trompettes, Jéricho est tombé au son des trompettes. Les trompettes expriment bien la colère de Dieu. Quand Dieu s'exprime et que Dieu châtie, eh bien, l'image de la trompette va bien montrer ça. Alors ces sept trompettes vont marquer à chaque fois les châtiments qui viennent frapper les ennemis de Dieu. Alors il y a d'abord les quatre premiers châtiments qui frappent la terre, la mer, les fleuves et les astres, pour montrer que tout l'univers est lui aussi tributaire du péché des hommes, et tout l'univers en souffre. La cinquième trompette, c'est le premier malheur. Il y a un aigle géant qui vient crier à trois reprises « Malheur, 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 vé, vé, vé ». Le premier malheur, c'est des sauterelles infernales. L'enfer est ouvert et de l'enfer sortent des animaux tout à fait monstrueux, avec des têtes de sauterelles, des queues de scorpions, des corps de chevaux, qui sont des images des démons. Et ces démons s'attaquent à tout l'univers, s'attaquent aux chrétiens. Et puis un petit intermède, donc ça c'est la sixième trompette, ces sauterelles infernales, un petit intermède d'un ange qui doit avaler un petit livre que Dieu lui donne. C'est tout ce petit livre contient tout ce qui va être révélé ensuite. Parce qu'ensuite, on va reprendre tout ça, mais sous un angle nouveau. Ça sera les luttes des méchants, des ennemis de Dieu, contre l'Église, tout spécialement. Donc l'ange du petit livre. Et puis cet ange doit mesurer le temple. La mesure, c'est le symbole d'un acte de protection. L'ange doit mesurer, c'est-à-dire que ce qu'il mesure va être protégé, va être préservé. Alors il mesure le temple, le sanctuaire, mais il ne mesure pas le parvis, pour montrer que l'Église est indemne. Elle ne peut être attaquée. Elle est forcément préservée. Mais le parvis de l'Église, lui, ne l'est pas. Les ennemis de Dieu pourront s'attaquer aux hommes d'Église, pourront s'attaquer aux structures de l'Église, mais pas à l'Église elle-même. Bon. Et puis ensuite, il y a une cavalerie infernale qui intervient, et tant les sauterelles monstrueuses, infernales, que cette cavalerie infernale symbolisent déjà ce qui ensuite va être décrit par les deux bêtes. Alors bon, je saute un petit peu, et vous avez ensuite la deuxième grande partie de l'Apocalypse qui nous raconte la femme et le dragon, avec ses ministres. Alors c'est la partie centrale, c'est le chapitre 12, pour le jour de l'Assomption, d'ailleurs dans le rite romain, l'introïte est tirée de ce passage. La femme couronnée de 12 étoiles. Alors cette femme c'est l'Église, c'est aussi la Vierge Marie, elle enfante notre Seigneur, mais elle enfante aussi les chrétiens. Et le diable, le dragon roux, veut lui ravir son enfant. Alors elle est emportée sur les ailes du grand aigle, au désert, c'est-à-dire qu'elle est protégée. Le démon ne pourra s'attaquer à notre Seigneur ni aux enfants de Dieu. Vous voyez, toujours pour bien montrer cette victoire qui est déjà acquise pour notre Seigneur et pour les chrétiens. Et puis ce dragon, donc, qui ne peut venir à bout de l'enfant, va avoir deux ministres, les bêtes, qui sont le symbole de l'Antéchrist, mais l'Antéchrist avec toutes ses préfigurations. La bête de la mer préfigure tout les attaques dont l'Église est l'objet au cours de son histoire, toutes ces attaques comme les attaques de l'islam, les attaques politiques, tous ces gouvernements qui ont voulu renverser notre Seigneur, qui nient notre Seigneur, qui rejettent la chrétienté, qui sont la bête de la mer, c'est la plus féroce des deux. Et puis la bête de la terre symbolise davantage les hérésies, les gnoses, les mauvaises philosophies, les religions fausses. Alors ces deux bêtes s'accordent pour faire adorer le dragon par toute l'humanité. Elles marquent les hommes de leur signe, le signe de la bête, hein, le fameux signe 666, comme dit le, hein, qui est 6, vous voyez, c'est 7 moins 1. C'est le chiffre de l'imperfection par excellence. Alors, 3 fois 6, on ne peut pas faire plus imparfait, plus odieux d'une certaine manière. Voilà. Et puis, au-delà de tout ça, après avoir ainsi présenté dans une espèce de triptyque, hein, la femme, le dragon, les bêtes, et l'agneau comme égorgé, hein, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il va y avoir un nouveau cycle de 7 coupes. Ces 7 coupes, c'est pour reprendre la même chose que ce qu'on a eu dans les 7 trompettes, mais cette fois, c'est envisagé spécialement sous l'angle des luttes entre le diable et l'Église. Donc c'est surtout sous cet angle-là. Alors à chaque fois qu'un ange renverse sa coupe, ben, il y a un châtiment qui s'opère. Donc il déverse la première coupe sur la terre, sur la mer, sur les fleuves, sur les astres, sur le trône de la bête. Et puis, pour terminer, la 7e coupe, tout comme d'ailleurs ça avait été le cas de la 7e trompette ou du 7e sceau, décrit davantage les derniers jours du monde, là pour le coup. Le temps qui précédera immédiatement la venue de notre Seigneur, le jugement dernier et puis le temps de la grande apostasie, de l'antéchrist. Et enfin, pour terminer, avant d'en arriver à la Jérusalem céleste, vous avez le châtiment des ennemis de Dieu. Alors ce châtiment va être décrit, tour à tour, c'est Babylone, d'abord, qui va être détruite. Les bêtes, chacune des deux bêtes, qui vont être refoulées dans l'étang de soufre, l'enfer, et puis le dragon lui-même. Et enfin, pour terminer, la Jérusalem céleste, qui nous présente donc cet idéal, ce but pour lequel nous sommes faits. Voilà. Alors, je ne veux pas prolonger. Je me contente simplement de vous lire la conclusion du livre. Voilà, Saint Jean, c'est l'ange qui dit à Saint Jean. « Ces paroles sont certaines et véritables. » Ça porte sur tout ce qui précède, hein. « Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, c'est-à-dire le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Tout ça doit arriver bientôt. Mais pour Dieu, 1000 ans est comme un jour. Arriver bientôt, ça ne veut pas dire demain. Ça veut dire que dans ces derniers temps, toute cette période qui sépare l'ascension du jugement dernier. « Alors le Christ me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. » Que celui qui est injuste fasse encore le mal, que l'impur se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Et voici que je viens promptement, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous voyez, c'est au bout du compte, on sera jugé chacun selon nos œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, l'oméga, la dernière, pour montrer que le Christ récapitule tout en lui. Le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans la ville par les portes. En revanche, dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. C'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses pour les églises. C'est moi qui suis le rejeton et le fils de David, l'étoile brillante du matin. Pour terminer, d'abord une grande circonspection, vous voyez, dans l'interprétation de ces textes. Ne cédons pas à une espèce de curiosité un peu malsaine et à des interprétations malvenues qui risquent de nous égarer et de nous faire passer à côté de l'essentiel. Bien retenir le combat des deux cités et que c'est un livre plein d'espérance. Que toute la vie humaine, terrestre, et il y a deux camps. Dieu, avec l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, les élus et Jérusalem, Jérusalem céleste. Et puis en face, le dragon, les bêtes et la grande courtisane, Babylone, avec tous ses adeptes. Et c'est une lutte à mort. Et la clé de cette lutte est surnaturelle, elle est théologique. Mais l'agneau est victorieux. Ce n'est pas du manichéisme. Ce n'est pas deux camps qui sont de forces égales. Le diable est déjà défait. Il a déjà perdu. Voilà. Chacun sera jugé selon ses œuvres, tant les élus que les ennemis de Dieu. Je ne vous ai pas lu, mais il y a des passages magnifiques sur le cantique des élus, sur le chant des élus, sur le cantique nouveau. Il y a des descriptions du ciel, de la vie des élus, qui est vraiment merveilleuse dans l'Apocalypse. Et pas de salut sans la croix. Vous voyez, toutes ces tribulations qui sont décrites, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous effrayer, ce n'est pas pour nous exciter à une espèce de voyeurisme, c'est pour nous montrer qu'on ne pourra atteindre le ciel qu'en passant par la grande tribulation, par la croix. Dieu le veut ainsi pour nous purifier. Ces tribulations servent à châtier les méchants et à purifier les bons. Et c'est pour ça qu'elles sont nécessaires. Je ne sais pas si ça vous aura donné envie de lire l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman, hein. Il ne s'agit pas dès ce soir de vous mettre au coin du feu pour eux. Mais c'est un livre qui vaut la peine d'être médité. C'est la Sainte Écriture. Il ne faut pas laisser ce trésor à ceux qui risquent d'en abuser ou de mal le comprendre. Alors normalement, mais il n'est pas encore paru. Il devait y avoir un livre qu'on voulait vous proposer. Il paraîtra normalement avant début septembre. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez trouver beaucoup plus d'éléments dans ce livre pour vous aider un petit peu à lire l'Apocalypse, en vous aidant de l'interprétation que l'Église en donne, que les grands lecteurs en ont donné. Voilà. Merci beaucoup. On va dire un « Je vous salue Marie », si vous voulez.